Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Elle a eu une série de premières. Les premiers pas d'Elisabeth Borne, première ministre, le cours du blé qui bat un nouveau record, et puis première montée des marches ce soir à Cannes.
Nos deux focus du jour, retour sur la nomination d'Elisabeth Borne. Qui est-elle vraiment? Et à 12h50, je le disais, cette polémique autour d'un footballeur que vous ne connaissez peut-être pas forcément, Idrissa Gueye. C'est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui était absent samedi. Il aurait refusé de porter le maillot floqué aux couleurs de la lutte contre l'homophobie. Et évidemment, ça fait beaucoup réagir.
Notre question du jour sur RTL.fr. Avez-vous été surpris par la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon? Vous dites non à 73%. Notre météo, c'est avec vous, Céline Dacosta. Bonjour Céline.
Bonjour Amandine, bonjour Pascal, bonjour
c'est
à tous.
Beau et chaud.
Ah oui, beau, avec grand ciel bleu et soleil pour tout le monde, ou presque. Un petit bémol pour le nord-ouest, où on a des averses parfois orageuses qui vont circuler cet après-midi en soirée sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie. Et chaud, avec des valeurs parfois 10 degrés au-dessus des normales de saison. La maximale sera de 33 degrés pour Montélimar ou Montauban. Il en fera 31 à Bordeaux et Grenoble, 30 à Paris, 29 à Clermont-Ferrand, 27 à Metz, 25 à Montpellier. Un petit peu moins chaud près de la Manche sous les nuages, avec 23 degrés à Cherbourg et 22 degrés à Brest.
Et demain, ce sera encore plus chaud, vous nous direz ça tout à l'heure, à 13h.
RTL Midi.
Et pour commencer, justement, direction Toulouse. C'est l'une des villes où il fera le plus chaud cet après-midi. 32 degrés attendus à l'ombre, bien sûr. Bonjour Patrick Tégéraud.
Bonjour,
on se croirait en plein été, c'est ça?
Oui, un petit épisode estival dans ce joli mois de mai. Alors on en profite. Tenez par exemple François, 70 ans, est venu faire son marché avec sa copine de 93 ans.
Effectivement, c'est un peu inhabituel, oui. Mais bon, on est à Toulouse, alors...
Vous avez pris des précautions particulières aujourd'hui?
Non, on fait des courants d'air et on reste à l'intérieur.
Mais là, vous vous promenez en plein soleil.
Oui, mais bon, on est toulousaine, alors on a l'habitude.
Main dans la main, Aude et Jules sont habillés, ou plutôt dévêtus, comme pour aller à la plage. Pourtant, nous sommes place Wilson, au cœur de la ville.
En général, il fait beau dès le mois d'avril et à partir du mois de mai, c'est déjà la canicule.
C'est vrai que c'est agréable. On profite de ne pas travailler aujourd'hui pour s'habiller assez léger. Un short, un t-shirt, et ça fait l'affaire. C'est l'été.
Franck, lui, n'a pas vraiment le sourire. Il est serveur dans une grande brasserie de la place du Capitole.
Ouh, ça risque d'être légèrement calme, vu la chaleur qu'ils annoncent. Et pour nous, c'est très dur, quoi, parce qu'on a chaud aussi. Et après, s'hydrater, surtout.
Ouais, oui, mais justement, dans un bar, c'est ce qu'on vient faire. Hein.
Ouais, mais vous savez, même des fois, avec les grosses chaleurs, les gens désertent un peu les terrasses parce qu'il fait trop chaud, quoi. Donc,
vous n'avez pas encore installé les brumisateurs sous les parasols?
Si la chaleur persiste, je pense que ça ne devrait tarder.
Eh bien voilà de quoi retarder l'heure de l'apéro ce soir. Le pic de chaleur sera prévu vers 17h, alors on va attendre que ça passe.
Effectivement, attendons que ça passe. Merci à vous Patrick Tégéraud, en direct de Toulouse. Donc 32 degrés annoncés pour cet après-midi.
Les premières heures d'Elisabeth Borne à Matignon.
Bonjour William Galibert.
Bonjour.
La nouvelle première ministre a réservé sa sortie aux députés de la majorité.
Oui, à l'Assemblée. Et la bosseuse Elisabeth Borne est fidèle à sa réputation. Il y a quelques minutes, elle a prévenu, je cite, « La tâche qui nous attend est immense. » Face à elle, des députés qui l'ont déjà pratiquée, qui louent la technicienne au top sur ses dossiers, mais qui s'inquiètent de ce côté techno, rigide, pas très empathique. Et oui, c'est ça aussi, devenir première ministre, c'est être jugé en permanence. Et puis, Elisabeth Borne devient officiellement chef de la majorité avec une sacrée première bataille en vue, bataille des législatives. D'ailleurs, ce matin, elle a donné rendez-vous aux députés, je cite, sur le terrain.
Et elle est candidate dans le Calvados. Clairement, Elisabeth Borne joue sa place.
Oui, une défaite et elle pourra remballer ses cartons. C'est la règle, elle doit gagner pour rester. C'est la première fois qu'elle est candidate à une élection, mais l'obstacle n'est pas insurmontable. La circonscription est déjà macroniste et a confirmé cette tendance lors de la présidentielle.
Le nouveau gouvernement qui entre et qui sort.
Alors, Elisabeth Borne va essayer de peser sur les équilibres, sur l'architecture, sur certains noms, mais clairement, ce n'est pas elle qui a la main, c'est Emmanuel Macron qui va composer ce gouvernement. Elisabeth Borne, en revanche, a la main sur le cabinet qu'elle doit composer, c'est toujours ça de prix. Elle a choisi Aurélien Rousseau pour le diriger, c'est un énarque issu de la gauche, ancien de l'Agence régionale de santé et qui connaît déjà la maison Matignon. Ça peut paraître un peu anecdotique de la coulisse, mais ce cabinet de la Première Ministre, il aura un rôle majeur dans le pilotage des futures réformes.
William Galibert du service politique de RTL. Autre réaction après cette nomination, celle d'Éric Zemmour, le président de Reconquête était ce matin l'invité de RTL.
Je salue l'arrivée du nouveau Premier ministre, que ce soit un homme ou une femme, si elle est compétente. Moi, j'ai toujours dit ça pendant toute la campagne.
Vous l'appelez nouveau Premier ministre, vous ne dites pas Première ministre.
Oh, c'est moche, non ? Enfin, à l'oreille, moi, vous savez, le français, pour moi, ça doit d'abord être beau. Donc oui, c'est le nouveau Premier ministre. Je ne suis pas dupe, Emmanuel Macron nomme une fois de plus une Premier ministre technocrate, comme Jean Castex, pour avoir la main sur tout. Voilà, c'est un classique d'Emmanuel Macron.
Éric Zemmour avec Alba Ventura ce matin sur RTL. Elisabeth Borne, qui peut ce matin se féliciter des très bons chiffres du chômage, quasi stable au premier trimestre à 7,3%, au plus bas depuis 2008. C'est son bilan de ministre, ça, Éric Vanier.
Oui, la nouvelle Première ministre peut se prévaloir d'un bilan flatteur à la tête du ministère du Travail. Elle y est arrivée en juillet 2020, juste après le premier confinement durant lequel le chômage avait atteint des sommets. Et depuis, effectivement, le nombre des demandeurs d'emploi n'a cessé de reculer. À son actif, le plan Un jeune, une solution, la relance de l'apprentissage, la réforme de l'assurance chômage faite dans l'optique d'inciter à la reprise du travail. On est donc tombé à un taux de chômage de 7,3%. C'est un record, vous l'avez dit, depuis 2008, si l'on excepte la période atypique du confinement du printemps 2020. Mais il faut quand même tempérer ces chiffres. La France reste à un niveau de chômage supérieur à la moyenne européenne. Et surtout, cette baisse du nombre des demandeurs d'emploi a marqué le pas au premier trimestre, moins 0,1% seulement, alors que ça avait été moins 0,6% au trimestre précédent. Les économistes y voient les premiers effets de la guerre en Ukraine.
Éric Vanier du service économie de RTL.
La guerre en Ukraine, et arrêtons-nous sur le sort des combattants de la Syrie d'Azovstal à Mariupol.
Et ils sont, vous le savez, depuis le début du conflit, le symbole de la résistance ukrainienne. Près de 300 d'entre eux ont pu sortir hier, des héros, a dit dans une vidéo le président Zelensky.
Je tiens à insister là-dessus. L'Ukraine a besoin de héros vivants. Je pense que ces mots seront compris par chacun. Le travail continue pour ramener nos gars à la maison. Et ce travail demande de la délicatesse et du temps.
Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
L'Ukraine parle d'évacuation. Côté russe, on évoque une reddition.
Oui, c'est un peu la guerre des mots, chaque partie interprétant à son avantage le sort de ses soldats. Alors ce qu'on sait, c'est qu'effectivement hier, 265 ont quitté l'enfer de la Syrie Azovstal à Mariupol, évacués après avoir rempli leur mission de combat, précisé l'état-major de l'armée ukrainienne. On sait qu'ils sont actuellement en territoire pro-russe ou contrôlés par les Russes dans l'est du pays. Une cinquantaine, les blessés les plus graves sont hospitalisés et soignés. Hier, la vice-ministre de la Défense ukrainienne annonçait, elle, que ces combattants devraient être rapatriés en territoire ukrainien dans le cadre d'un échange de prisonniers. Ce matin, Kiev a annoncé que les évacuations des résistants d'Azovstal continuaient. Il y a quelques jours, un des commandants du bataillon d'Azov, retranché dans l'usine, avait indiqué qu'ils étaient encore un millier dans les sous-sols de la Syrie, dont 600 blessés. Il faisait état également de nombreux morts.
Un récit signé Sophie Jousselin pour RTL. Les conséquences de cette guerre, la flambée des prix des matières premières et notamment des céréales. Le cours du blé a battu hier un nouveau record, 438,25 € la tonne. Ça va avoir des conséquences sur tous les produits alimentaires, Virginie Garin.
Oui, le pain, les pâtes, les pâtisseries, tout ce qui est fait directement avec du blé, bien sûr. Notre enquête RTL l'a montré la semaine dernière. La moitié des boulangers a commencé déjà à répercuter la hausse, 5 à 10 centimes de plus pour une baguette. Ensuite, vous avez la viande, les cochons, les volailles, ils mangent des céréales. Pour faire 1 kg de poulet, il faut 2 kg de céréales. Et puis les œufs, le maïs et le blé que mangent les poules, c'est les deux tiers du prix d'un œuf. Enfin, les produits laitiers, les vaches sont nourries aux céréales, donc le beurre, le lait, les fromages ont augmenté. On peut le craindre d'une quinzaine de pourcents cette année, au moins. Alors concrètement, le budget consacré à l'alimentation pour une famille de 4 personnes en France, c'est un peu plus de 450 € par mois. Et bien quand toutes les hausses auront été répercutées à la rentrée, cette famille risque de payer entre 60 et 70 € de plus pour se nourrir chaque mois.
Merci à vous, Virginie.
Le
Tout
Festival de Cannes.
Ben oui, vous connaissez la musique.
C'est aujourd'hui des musiques magnifiques.
Et on retrouve sur place Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane.
Bonjour Amandine, bonjour Pascal, bonjour à tous.
Ça y est, tout est en place. Les festivités débutent donc ce soir. Hein.
Oui, coup d'envoi vers 19h15 avec une cérémonie d'ouverture présentée par Virginie Efira. Premier temps fort ce soir. Une palme d'or d'honneur remise à l'acteur américain Forest Whitaker. Et puis la rumeur du jour, la venue surprise de Jim Carrey. C'est lui qui figure sur l'affiche de cette 75e édition. Pendant 11 jours, 21 films en compétition avec le lot habituel de nouveaux venus de la planète cinéma, mais aussi les habitués. Les frères Dardenne, chers au cœur de Pascal.
C'est vrai. C'est vrai. Je les saluerai pour vous, Pascal. Saluez-les, effectivement, les frères Dardenne.
James Gray, Kore-eda, le japonais Arnaud Desplechin ou encore le retour de David Cronenberg. Si vous voulez les stars, rendez-vous demain avec l'événement Tom Cruise qui vient présenter ici hors compétition la suite de Top Gun. Avec,
mais la suite, c'est ça, j'ai vu la bande-annonce, mais il a 20 ans de plus, 30 ans de plus.
Ah oui, vieilli comme nous tous.
C'est entendu, mais il pilote toujours un avion.
Alors, en fait, il est presque à la retraite et on lui demande de venir former de nouvelles recrues pour une mission suicide. En fait, c'est ça, l'idée du film.
C'est bien?
C'est très très bien. Alors, autant vous dire que moi, j'étais un peu passé à côté du premier qui m'avait pas ébloui. Le deuxième m'a totalement enchanté parce qu'il y a plein de nostalgie en plus et plein de clins d'œil. Oui, vraiment, c'est très très bien fait. Et demain soir, au-dessus du Palais des Festivals, pendant que Tom Cruise montre les marches, la Patrouille de France survolera Cannes avec les fumées bleu, blanc, rouge, évidemment. Après Tom Cruise, suivront sur les marches d'ici au 28, Tom Hanks, Viggo Mortensen et puis une forte délégation tricolore. Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Omar Sy ou encore Jean Dujardin, programme alléchant donc, on va vous faire vivre tout cela avec mon camarade Laurent Marsigue jusqu'au 28 mai.
Eh bien, on compte sur vous. Merci à vous, Stéphane, en direct de Cannes.
Nos focus dans une seconde. Le premier thème, la nomination d'Elisabeth Borne. Qui est-elle vraiment ?
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Démarrage un peu compliqué parce que j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune et l'entreprise de mes parents avait fait faillite. Je veux dire quelque part que j'avais pas le choix, quoi. Il fallait s'en sortir. Et peut-être ça a un peu forgé mon caractère et mon côté combatif.
Combative, c'est le mot qui revient assez régulièrement hein, depuis hier et la nomination d'Elisabeth Borne. On l'a dit aussi bosseuse, un peu rude parfois. Qui est-elle vraiment ? C'est notre premier débat avec nous, Anaïs Bouissou, journaliste au service économie de RTL. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
En charge des questions sociales, vous avez beaucoup côtoyé Elisabeth Borne ces dernières années. Gilles Dansart est également en direct avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur de Mobilettre, la lettre spécialisée dans le transport, et vous avez, vous aussi, suivi le parcours hein, d'Elisabeth Borne dans les ministères, mais aussi à la tête de la RATP. Vous la décrivez d'ailleurs, Gilles Dansart, comme une grosse travailleuse très dure avec ses équipes, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que avec elle, il n'y a pas de place à la galéjade ou au petit moment de détente. Elle est tout le temps à fond. Dès qu'elle est moins sous pression, c'est une femme qui a un sens de l'humour, etc. Mais vraiment, la plupart du temps, quasiment de 6h du matin à 23h, elle est à fond et est extrêmement exigeante, voire cassante et brutale envers ses équipes.
Vous seriez sur un DRH qui n'incite pas forcément à travailler avec elle, si vous me permettez, parce que si on peut même pas sourire de temps en temps entre 6h et 23h le soir,
c'est que c'est la place au travail avant tout avec Elisabeth.
Oui, c'est vraiment, elle s'applique à elle-même une extrême exigence et elle attend de ses collaborateurs le même niveau. Et parfois, effectivement, ça frotte parce que ses collaborateurs ont aussi une vie de famille, ont aussi des moments de fatigue. Et ça, elle est assez imperméable à ce genre de faiblesse humaine.
Anaïs, j'ai lu qu'on la surnommait dans les couloirs du pouvoir burn-out. C'est vrai ça ?
En lien avec burn-out, oui. Burn-out, voilà. C'est un surnom en fait qui remonte aux années 2015-2017 quand Elisabeth Borne était à la tête de la RATP. C'est un surnom qui a été rapporté par plusieurs sources qui ont évoqué des gens qui sortaient de son bureau en pleurs, des équipes débordées, parce que c'est exactement ce qu'on disait. Avec Elisabeth Borne, il faut être précis, méticuleux, travailler vite. Elle-même travaille effectivement énormément. Elle a toujours été connue pour ça et reconnue pour ça. Et pour vous faire une comparaison au ministère du Travail avec l'ancienne ministre du Travail, Elisabeth Borne, l'ancienne ministre du Travail, c'était Muriel Pénicaud. À l'époque, les partenaires sociaux disaient que le vrai ministre du Travail, quand c'était Muriel Pénicaud, c'était son chef de cabinet. Et bien, dès l'instant où Elisabeth Borne est arrivée au ministère du Travail, c'est elle qui a pris les choses en main directement dès les premiers temps. Et soit elle connaissait son sujet, soit elle posait des questions pour apprendre vitesse grand V et ensuite pouvoir prendre des décisions. Mais elle tenait à être la chef, en l'occurrence, du ministère.
Alors, vous évoquiez sa carrière à la RATP. Écoutez, Thierry Babec, c'est l'ancien secrétaire général de l'UNSA RATP et lui, il garde une autre image d'Elisabeth Borne.
L'image qu'on en donne parfois d'une femme qui est stricte, austère, moi, c'est pas du tout le souvenir que j'en ai. C'est quelqu'un de très, très affable. Dès que vous aviez brisé assez rapidement la glace, si je puis dire, vous pouviez discuter très librement. C'est quelqu'un qui arrivait le matin dans l'entreprise très tôt, revenant de son footing en tenue de sport et a traversé le hall de l'entreprise comme ça, en trottinant pour rejoindre son bureau et sans doute prendre une douche, quoi. C'est pas franchement l'image d'une grande austérité, quoi.
Gilles Dansart, il faut briser la glace avec elle, c'est ça ?
Dès que la glace est brisée, dès qu'il n'y a pas la pression inhérente au pouvoir ministériel, au pouvoir de chef d'entreprise, effectivement, c'est une femme totalement affable et dotée d'un vrai sens de l'humour. Mais encore faut-il qu'elle n'ait pas de pression. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très très souvent inquiète, voire elle craint par exemple les mobilisations sociales, parce que ça échappe d'une certaine façon à une forme de rationalité. Ce sont des choses qui ne sont pas du domaine de son logiciel d'analyse très techno, et donc c'est très difficile d'avoir ces moments-là, et plus le temps avance, plus ses responsabilités augmentent, et moins ces temps-là existent pour elle, a fortiori depuis 5 ans.
Pour rebondir effectivement sur le côté mobilisation, partenaires sociaux, Elisabeth Borne, elle a énormément mené de réunions. C'est au cours de ces deux dernières années, notamment pendant la crise Covid, mais pas uniquement. Il y a eu la réforme de l'assurance chômage. Et j'ai demandé aux représentants syndicaux s'ils avaient des souvenirs de moments conviviaux au cours des heures de travail avec la ministre. Le terme qui est revenu plusieurs fois, c'est le côté reptilien d'Elisabeth Borne. C'est-à-dire que c'est un serpent froid qui ne lâche pas sa proie. C'est pas moi qui le dis.
Je trouve qu'on dresse d'elle un portrait alors qu'elle est à peine en fonction, un peu rude peut-être.
Retour pendant les réunions de travail, c'est le retour qu'ont les partenaires sociaux de cette ministre du Travail.
On peut évoquer peut-être aussi sa couleur politique et son engagement politique, parce qu'elle a un CV long comme le bras. Elle est diplômée de l'École Polytechnique et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées. Elle a l'expérience, l'expertise, l'excellence des grands serviteurs de l'État. Elle est marquée à gauche, disons-le. Et c'est peut-être ça aussi qui est à retenir de cette nomination. Elle est à gauche. Jospin, Ségolène Royal, elle a travaillé avec des hommes et femmes de gauche.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je dirais plutôt qu'elle est fidèle aux personnes avec qui elle a travaillé, que ce soit de gauche comme de droite. Quand elle mène la réforme de l'assurance chômage, c'est clairement pas une réforme de gauche. C'est pas une réforme de gauche. C'est une réforme qui vise, en 2022, à faire quasiment 2 milliards d'économies sur l'assurance chômage. On ne parle pas d'une réforme de gauche. On parle d'une fidélité à une ligne politique. Quelle qu'elle soit, finalement.
L'angle royal, Jospin, c'est des marqueurs de gauche, quand même.
Le gouvernement Édouard Philippe n'apparaît pas comme un gouvernement de gauche, ni celui de Castex, d'ailleurs.
C'est une discussion due en même temps qui existe, où est la droite, où est la gauche. Merci en tout cas à Anaïs Buissou. Et puis, bonne chance quand même à Madame Borne, c'est son premier jour de nomination. Le gouvernement, ça serait pour vendredi, paraît-il.
Jeudi ou vendredi. Benjamin Sportouche, je me disais plutôt vendredi d'après-midi.
Il est 12h50, notre deuxième sujet à l'instant, c'est l'affaire, si j'ose dire, Gay. À tout de suite.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
La Ligue n'a rien demandé d'extraordinaire. Porter un maillot avec juste le numéro aux couleurs arc-en-ciel qui est signe de la lutte contre l'homophobie. Et que le joueur refuse de le mettre, moi franchement ça me gêne, ça me déçoit et je trouve que c'est bien désagréable parce que je pensais que les choses avançaient. Mais avec des moments comme ça, ça fait mal au cœur quand même.
Il est le premier footballeur professionnel à avoir fait son coming out. Olivier Rouillet ne cache pas, vous l'avez entendu, sa déception après l'absence samedi d'Idrissa Gueye, le milieu de terrain du PSG qui a visiblement refusé de s'associer à la journée de lutte contre l'homophobie. On en parle avec vous, Philippe Sansfourche, bonjour.
Bonjour.
Et Julien Pontès, porte-parole du collectif Rouge Direct, qui lutte contre l'homophobie dans le sport. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Philippe, petit rappel peut-être pour que les auditeurs comprennent bien de quoi on parle. Samedi, lors de la 37e journée de Ligue 1, tous les joueurs portaient le maillot floqué aux couleurs de la lutte contre l'homophobie.
Oui, c'est ça. C'est la quatrième saison consécutive que la Ligue de football professionnelle s'associe donc à la journée de lutte contre l'homophobie. Au début, c'était simplement un brassard que les capitaines portaient déjà aux couleurs arc-en-ciel. Et depuis deux saisons maintenant, c'est l'ensemble des joueurs de Ligue 1 qui portent donc ce maillot avec le numéro floqué aux couleurs arc-en-ciel.
Et Idrissa Gueye aurait donc dû jouer et au dernier moment était absent.
Oui, Idrissa Gueye qui était dans le groupe, hein, qui faisait partie du groupe du Paris Saint-Germain qui s'est déplacé donc à Montpellier. Il n'était pas blessé, aucun problème apparent et au dernier moment donc il est resté en tribune. Il a fait part de son souhait à titre personnel de ne pas participer à la rencontre.
Alors c'est ça qui est important, on est dans le soupçon ou c'est avéré?
Alors, pour l'instant, le joueur ne souhaite pas communiquer sur la question et se positionner très clairement. Même chose du côté du club, mais ça ne fait aucun doute. C'était déjà le cas la saison passée. On se souvient que là, pour le coup, il avait invoqué une gastro-entérite de dernier moment. Lui et son coéquipier d'ailleurs, et compatriote sénégalais, Abdou Diallo, qui cette fois-ci, lui, était blessé, donc n'a pas eu à se positionner sur la question. Mais ça fait donc deux saisons, effectivement, que lors de la 37e journée de Ligue 1, il ne joue pas au dernier moment pour ces raisons. Voilà, il ne s'agit pas de cacher les choses, ce sont ses convictions religieuses qu'il estime être incompatibles avec le port de ce maillot.
Et Julien Pontès.
Et l'homosexualité, disons-le. En l'occurrence,
oui,
est-ce que c'est une lutte contre l'homophobie?
Julien Pontès, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, considère cette décision regrettable et elle a ironisé en disant « S'il avait la gastro, j'espère qu'il se rétablira vite ». Valérie Pécresse, elle, dit que ça ne peut pas rester sans sanctions. Vous dites quoi? Vous demandez des sanctions?
Oui, bien sûr, c'est le sens du courrier que notre avocat a adressé à la direction du PSG, parce que il faut prendre ce sujet très au sérieux. Nous, on voit sur les réseaux sociaux des milliers de messages homophobes en soutien à la décision d'Idrissa Gueye. Donc on est très inquiet de constater ce déchaînement d'homophobie sur les réseaux sociaux qui correspond à une ambiance très homophobe dans le football.
Plus que dans les autres sports?
Nous, on est spécialisés sur le football, mais en général, les sports collectifs ne sont pas très gay-friendly. Mais le football est assez particulier parce qu'il n'y a pas de sanctions, en fait, malgré les chants homophobes qu'on signale et qu'on publie, hein, pour demander des sanctions qui sont prévues par le règlement. Malheureusement, rien n'est fait. On entend dans les stades, il faut tuer CPD de Toulousains, de Marseillais, etc. Bon, ça tombe déjà sous le coup de la loi parce que l'homophobie est un délit, hein, c'est pas une opinion. Mais la LFP doit au moins appliquer le règlement sur les propos homophobes et sanctionner ce qu'elle ne fait pas. Et là, le Paris Saint-Germain, apparemment, il ne sait pas sur quel pied danser pour sanctionner ou pas Monsieur Gueye. Ben, il faut que Idrissa Gueye s'explique. Il faut qu'il donne ses explications, les motivations qui ont fait qu'il a refusé de soutenir ce combat pour l'égalité des LGBT. Il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'on entende, qu'on comprenne ce qui se passe exactement. Et pour cela, le PSG doit le convoquer. C'est ce qu'on demande, hein, par la voix de notre avocat au PSG. On attend une réponse officielle du PSG et puis les explications du joueur.
Philippe Sanfourche, c'est le seul joueur à avoir eu cette attitude-là?
Alors, historiquement, il y a toujours eu, hein, une ambiguïté et des joueurs qui, plus ou moins ouvertement, se sont retirés du jeu. On se souvient que dès la première année, par exemple, le capitaine de Monaco, l'attaquant Radamel Falcao, à l'époque, n'avait pas souhaité, de manière très claire, porter le brassard. Et c'est son entraîneur, Léo Jardim, qui l'avait mis en disant « Du moment que l'un des membres de l'équipe le fait, ça fait office de soutien à l'opération. » Voilà, il y a quelque part une gêne. Que disent les joueurs? Alors évidemment en off, hein, c'est le fait d'avoir ce maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel est une manière pour eux, non pas de défendre la lutte contre l'homophobie, mais d'apporter un soutien, une forme de prosélytisme qu'ils ne souhaitent pas représenter.
faisiez la comparaison avec ceux qui ne voulaient pas forcément poser le genou à terre. On a vu ça dans plusieurs pays, dans la lutte contre le racisme.
Oui, c'est pas la même question, mais la problématique est un peu la même. C'est-à-dire que ces joueurs ne se considèrent pas homophobes, mais ne souhaitent pas le revendiquer. Et le club, pour le coup, les services juridiques...
C'est ce que disait M. Pontès, c'est ça qui est intéressant. Que va faire le PSG?
Alors, pour l'instant, les services juridiques du club...
Est-ce qu'il sera convoqué? Est-ce qu'il y aura une sanction? Est-ce qu'il sera au PSG l'année prochaine?
La ministre Roxana Maracineanu a tout de même ajouté qu'on était en démocratie et que chacun avait la liberté de porter le maillot qu'il voulait ou non et qu'elle trouvait ça simplement regrettable. Donc il ne se met pas en infraction par rapport à la loi.
C'est intéressant, effectivement, et c'est un sujet qui va faire rebondir, j'imagine, les auditeurs dans quelques instants. Merci Philippe Sanfour. Je ne demande pas où va Mbappé, puisque personne au service des sports est capable de me le dire. Donc je suis quand même très déçu.
Il n'y a personne nulle part, si je peux me permettre.
Je pensais que vous étiez des journalistes informés au service des sports d'RTL.
C'est imminent, Pascal, vous serez le premier informé, bon. je vous l'assure.
Au Real Madrid.
Merci
Monsieur Pontès. Exactement, merci beaucoup. Et il est quasiment 13h, on est en retard. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.